Ce podcast est une production Blabla Studio.
Track Record, c'est le podcast qui donne la parole aux DJ. Vous entendez leur son partout, nous vous proposons ici d'écouter leur voix. Je suis Pauline de Saint-Sauveur. Après 10 ans passés en communication pour des grandes marques, je deviens rédactrice freelance, d'abord sur des sujets mode et beauté, puis je m'attaque à mon autre passion, la musique électronique. Track Record est né de cette envie. Partage avec vous la découverte de personnalités tout aussi passionnantes que leur musique. Alors j'espère que vous aurez envie de monter le son et d'appuyer sur play. Bonne écoute!
Bienvenue dans Track Record. Aujourd'hui, je reçois le compositeur, producteur et multi-instrumentiste Simon Henner, alias French 79. Bienvenue Simon.
Merci.
Un grand merci d'avoir accepté mon invitation pour ce 6e épisode de Track Record. Au milieu de ton agenda bien chargé, entre ta tournée Joshua Tour qui affiche guichet fermé, notamment aux États-Unis et au Canada, un nouvel album en préparation et un projet musical encore une fois collaboratif que j'espère tu vas nous faire découvrir, je suis ravie que tu aies pu trouver le temps de cette conversation pour revenir sur ton impressionnant parcours et faire découvrir ton univers à ceux qui ne te connaîtraient pas encore. Pour te présenter rapidement, ton parcours de producteur et de musicien est particulier, puisque tu te produis aujourd'hui seul sur scène, mais que tu as toujours fait partie de multiples projets collaboratifs depuis tes débuts. On pourrait parler de bande de potes en français, mais surtout de band anglais, un groupe d'amis auquel tu es fidèle et que tu accompagnes dans leur évolution artistique. Je pense notamment à Kid Francescoli, avec lequel tu partages ton studio à Marseille. Tu as débuté avec lui et au Tiger Mountain dans le groupe Husbands en 2013. Tu as ensuite produit tous ses albums, de With Julia, sorti en 2014, à son dernier Lovers en 2020, et notamment le morceau Moon, qui avait fait un carton en 2017, avec aujourd'hui plus de 63 millions de vues sur YouTube. On en profite pour saluer Mathieu, s'il nous écoute, car c'est grâce à lui qu'on se rencontre aujourd'hui. Il y a aussi Nicolas Vigola et Romain Chicha, les deux autres membres de Nasser, trio que vous avez formé en 2008. Vous avez sorti 4 albums en 10 ans et tourné dans le monde entier. Et c'est un autre duo de potes, les Cowboys, qui a réalisé avec toi l'identité visuelle de ton projet solo, French 79, dont le nom provient d'un cocktail d'ailleurs, que tu as créé en 2014. L'identité est reconnaissable à un logo arc-en-ciel qu'on retrouve partout, de ton blouson de scène à la pochette de tes albums, en passant par la voile d'un bateau, on verra sûrement pourquoi. Ton premier titre en tant que French 79 s'appelait Angel, il est sorti en 2014 et il a été suivi d'un album à succès olympique en 2016. Ton deuxième album Joshua, pour lequel tu tournes actuellement, est sorti en 2019. Il comprend notamment 2 featuring de Sarah Rebecca, qui travaille aussi avec Kid Francescoli. La boucle est bouclée. On peut aussi citer ton dernier projet en duo avec le poète et musicien Fred Nefché, The Unreal Story of Lou Reed, sorti cette année, mais également toutes les musiques de pub et de films que tu as composées qui se comptent par dizaines depuis tes débuts, tes collaborations avec d'autres chanteurs comme Vincent Delerme, un foisonnement créatif composé de multiples maillons dont tu serais en quelque sorte la chaîne ou la maille, si on veut, par les bateaux, ton autre passion. Bref, French 79, c'est bien plus qu'un homme derrière des machines, c'est un univers musical d'inspiration très variée qui dialogue avec l'ombre comme avec la lumière, avec la solitude comme avec la foule, entre des mélodies psychédéliques et des basses mystérieuses, tout un monde en contraste qu'on va essayer de décrypter ici avec toi. Mais pour commencer, revenons ici maintenant si tu le veux bien. Nous sommes à Paris où tu vas te produire ce soir au Grand Rex pour Cercle. Comment est née cette collaboration ?
Alors elle est née tout simplement par Phil de Cercle qui m'a contacté, je ne sais plus comment, par mail ou je ne sais plus, pour faire un morceau pour eux. C'était au début de l'idée de Cercle Records, c'est-à-dire que c'était le début des premiers morceaux qu'ils enregistraient, qui sortaient eux en tant que label, je dirais. Alors ça a été repoussé pour plein de choses, bah, notamment évidemment le Covid, mais d'autres choses aussi. Et donc là, ça s'est fait récemment. Et donc voilà, ça va apparaître sur la deuxième compilation.
Super, qui va être justement présentée ce soir.
Voilà.
Donc on a hâte d'écouter. On va revenir un peu aux sources marseillaises de ta musique, pour aller un peu en arrière pour rêve. J'aimerais savoir pourquoi cette ville est devenue ta terre d'adoption et comment tu es passé du Conservatoire National d'Épinal, donc de la Lorraine, à la Bonne Mère et à Marseille.
Bah, je suis descendu à Marseille pour finir mes études, tout simplement. Et je connaissais pas très bien cette ville. J'y suis descendu aussi pour la mer, parce que je faisais aussi beaucoup de planches à voile, de surf comme ça. Mais c'est vrai que je suis tombé tout de suite amoureux de cette ville, parce que... Bah, déjà parce que c'était une grande ville, et c'est vrai que venant d'Épinal, j'avais besoin de voir un peu une grande ville. Et Paris, ça m'a toujours attiré, mais quand même un peu moins que les villes en bord de mer. Et Marseille, ça combinait un peu tout ça. Et en fait, voilà, il y a des... C'est une ville où soit tu la détestes, soit tu l'adores. Moi, je l'adore.
Et t'as quand même aussi monté tes premiers projets musicaux en groupe à Marseille. Donc il y a eu Husbands et ensuite Nasser. T'as également la casquette de producteur. Et tout au long de ta carrière, t'as été toujours entouré. Donc t'as eu ta carrière solo d'un côté, toutes tes compositions. Et par contre, il y a toujours eu un groupe en fait à côté. Et je voulais savoir comment est-ce que ça a influencé ton travail depuis le début de ta carrière, le fait d'être en groupe, comment ça influence ton travail solo en fait. Est-ce que ça se répond? Est-ce que c'est un dialogue? Comment est-ce que ça s'est passé?
Ouais, ça se répond. Après, mon projet où je suis tout seul. Je suis tout seul sur scène, mais pour de vrai, même quand je suis en tournée, il y a quand même toutes mes équipes de techniciens qui sont avec moi, donc c'est toujours un peu la colo de vacances, que ce soit en groupe ou tout seul, c'est un peu quand même le même délire, je dirais. Après, c'est sûr que sur scène, c'est quelque chose qui est différent parce qu'on prend tout pour soi. Donc, quand ça fonctionne, c'est super. Quand ça fonctionne pas, c'est plus difficile aussi. Voilà. Après, moi, ce que j'aime bien, c'est l'alternance de ces choses-là. Donc, du coup, alterner entre jouer en groupe, c'est-à-dire avoir des interactions sur scène avec ses copains et tout ça, et jouer tout seul, donc avoir plus d'interactions avec le public, c'est ça qui est assez cool pour moi, en tout cas, de faire les deux. Donc, c'est pour ça que je me restreins pas à faire qu'une seule chose.
Oui, et alors pour le coup, le cliché un peu du producteur tout seul dans son studio, toi pas du tout, parce que déjà vous êtes plusieurs, et en plus il y a quand même une équipe qui produit avec toi, enfin il y a le dialogue avec l'artiste, notamment je pense à Mathieu, c'est pas du tout un job de solitaire quoi.
Non, c'est pas un job de solitaire, après le studio c'est vrai qu'on y passe, Mathieu aussi, on y passe, on a des pièces séparées dans le studio, hein. On est quand même souvent tout seul dans un studio, mais après la différence elle vient après, une fois qu'on a composé des choses, à qui on les fait écouter, est-ce qu'on les fait écouter à personne ou est-ce qu'on les fait écouter à ses copains du groupe quoi. Et c'est vrai que la réalisation d'albums, c'est-à-dire composer, produire, faire des arrangements, des choses comme ça pour d'autres, c'est aussi quelque chose qui me rapproche du groupe, donc ça j'aime beaucoup, ouais.
Donc en fait, il y a une notion de partage à chaque fois, que ce soit en solo ou quand tu travailles avec...
C'est ça exactement, c'est-à-dire de faire écouter, partager des sentiments sur la musique. C'est important quand même de faire ça avec des gens qu'on connaît et voilà, qu'on apprécie.
Bah notamment, je crois que j'ai une anecdote de Mathieu sur Moon, ouais. Où en fait vous l'aviez écouté et il te l'a fait écouter, et où vous avez, je pense, retravaillé je ne sais pas combien de fois, et où à un moment vous avez dit bon bah en fait on va faire écouter à quelqu'un d'autre, et puis après c'est fini. C'était ça un peu le...
Ouais voilà, c'est ça. Après en studio c'est assez spécial le moment où tu décides de faire écouter ça à quelqu'un d'autre quoi. C'est-à-dire qu'il ne faut pas le faire écouter trop tôt je pense, ni trop tard, voilà. C'est toujours ces petits moments-là qui sont un peu décisifs, hyper importants. On se pose beaucoup de questions là-dessus, hein, souvent, hein, savoir est-ce qu'on fait écouter ça, est-ce que je fais pas écouter, est-ce que je le garde que pour moi, est-ce que non, c'est pourri, donc je le mets à la poubelle, ou est-ce que avant de le mettre à la poubelle, je le fais quand même écouter. C'est toujours un peu tendu ces moments-là, mais c'est ça qu'on aime bien en tout cas.
Oui, et puis d'où l'intérêt d'avoir aussi des gens qui t'as confiance autour, où tu dis, bah, de toute façon, même si c'est pas bien, je leur fais écouter, ils me le diront, et puis j'ai confiance en eux, et puis voilà.
Bien sûr, après ça, c'est le côté musicien, c'est-à-dire quand on est en groupe, ou alors quand je suis avec Mathieu, tout ça, on se fait plus écouter les choses rapidement. Après, c'est plus te faire écouter à d'autres personnes extérieures de la musique, quoi. Voilà, c'est différent.
Et là, par exemple, je sais que tu as un autre album en préparation. Tu as fait écouter des choses déjà ou pas?
Oui,
du tout?
Oui, bien sûr. Ouais. Bah, avec Mathieu, on est quand même tout le temps ensemble dans le studio, sauf quand on est en tournée. Donc, on se fait écouter ouais, tout le temps des trucs. Ouais.
Donc, c'est partage permanent.
Ouais.
Et justement, j'ai relevé une phrase que tu as dite il n'y a pas longtemps sur la solitude et la création, qui était que tu n'avais pas besoin d'être malheureux pour créer un album, contrairement à d'autres musiciens. Je pense à un sur lequel tu as travaillé récemment, qui avait besoin d'être malheureux aussi, dans une certaine mesure, Lou Reed, et que tu avais simplement besoin de vivre des choses. Donc, comment est-ce que toi, tu as géré une période de 2 ans où il n'y avait pas grand-chose à vivre, justement, qui était celle du Covid?
Bah, je l'ai géré comme j'ai pu, j'ai fait d'autres choses. J'ai fait de la peinture, j'ai fait de la photo. Au début, j'ai essayé de faire de la musique, mais je faisais que des trucs un peu pourris. Parce que justement, je vivais rien à l'extérieur, quoi. Vivre 24 heures sur 24 dans sa maison, son appart, avec la même personne, c'est pas non plus très excitant. Donc, c'était pas pour moi une super période de création en termes de musique, parce que j'avais rien à dire, en fait. Donc, du coup, je me suis rabattu sur d'autres choses que j'avais pas le temps de faire et que j'avais envie de faire.
Oui, de la voile notamment, je crois que
ouais,
t'étais cherché
bah la voile,
un peu à l'extérieur.
Après, on n'avait pas le droit non plus, hein.
Jusqu'à un certain moment.
Ouais, c'est vrai. C'est ça. Non, alors que la peinture, la photo, c'était un peu plus facile.
Oui, c'est vrai. Donc, tu as été chercher un peu d'autres
ouais, voilà,
activités.
Voilà.
Et à contrario, donc aujourd'hui, maintenant qu'on peut tout faire, qu'est-ce que tu aurais envie de vivre pour créer dans d'autres directions que celles que tu connais déjà? Il y en a beaucoup, mais...
Ouais. Ce que j'aurais envie de vivre, je sais pas. Moi, j'aime bien vivre des choses qui sont complètement différentes. Donc, les voyages, c'est quand même hyper important. Moi, j'aimerais bien essayer de vivre dans un autre pays à un moment donné, mais je sais pas si c'est le moment. Non, en tout cas, continuer à vivre ce que je vis en ce moment, ça me suffit pour composer. Ouais.
Avec la tournée, ouais, le fait qu'il y ait un peu des nouvelles découvertes aussi en termes de dates, de pays.
Des fois, je me dis aussi que de rester un peu chez moi, ça serait pas mal. Là,
oui,
en ce moment.
Quand on est en tournée,
Ça.
Et après, quand on est chez soi, on veut y retourner.
Exactement.
Ouais, j'avais compris ça de Mathieu encore, tiens. Et à chacun son style, pour cette question qui s'appelle Play, j'aimerais que tu nous racontes la façon justement dont tu gères le live en tournée. Parce qu'en ce moment, c'est ce que tu fais avec Joshua. Est-ce que tu t'adaptes à chaque ville? Est-ce que tu as un scénario musical de base dont tu te détournes plus ou moins? Notamment aux États-Unis, là, c'était tes premières dates, donc c'était des salles et un public que tu connaissais pas. Donc comment est-ce que tu t'es préparé à ça?
Bah, je me suis préparé comme on peut se préparer à aller voir un public qu'on connaît pas. C'est-à-dire qu'on prépare plein de choses et qu'on essaie d'adapter en fonction des concerts et tout ça. Donc c'est vrai que c'était bien de commencer par un des plus petits concerts, c'était à Denver, et de finir par les concerts les plus importants. Mais non, quoi qu'il arrive, j'essaie toujours de m'adapter aux personnes qu'il y a en face. Alors après, je le prépare un petit peu en amont, c'est-à-dire que ça dépend si je joue à 19h ou si je joue à 2h du matin. En général, ça peut être le même public, mais pas la même ambiance. Et donc ça, je le prépare un peu en amont, à savoir quel titre je vais jouer, tout ça. Et après, selon ce que je vois devant moi, donc au moment M, c'est plutôt les longueurs, les transitions, la manière dont j'amène tel morceau, tout ça. Donc j'essaie au maximum de m'adapter à ce que je vois en face de moi.
Oui, donc en fait, tu as une base à toi, et puis ensuite, tu la retravailles en fonction du moment, quoi.
Voilà, c'est ça. La base, je la choisis aussi en fonction du temps que je peux jouer ou que je dois jouer. Et en fonction des horaires, pourquoi pas du pays. Bon, après, c'est vrai que je vais pas changer ma musique si je vais jouer aux États-Unis ou en Allemagne. Ça reste la même musique.
Non, mais par contre, il paraît qu'aux États-Unis, il y a un gros public français. Alors, est-ce que tu as pu expérimenter ça ou pas? C'est-à-dire qu'à New York, notamment, il y a pas mal de Français.
Oui, à New York, il y a des Français. Mais sinon, dans le reste des États-Unis, c'était plutôt le public américain.
Vraiment, donc tu as été sur quelque chose qui était... où ils te connaissaient par eux-mêmes, mais c'était pas un public français qui serait venu voir un artiste français, quoi.
Non. À New York, un peu plus, je pense. Mais non, dans le reste des États-Unis, non.
Ouais, donc c'était un peu la découverte de l'inconnu, quoi.
Voilà, c'est ça.
Et pour la question un peu hors champ, du coup, qui s'appelle Dans ton casque, j'aimerais savoir ce que tu écoutes quand ce n'est pas de la musique. Je sais que tu es fan de voile, donc peut-être le bruit, et de surf d'ailleurs, tu m'as dit.
Ouais.
Donc c'est peut-être le bruit des vagues, ou rien du tout.
Non, j'écoute des podcasts, ce qu'on est en train de faire là, j'aime bien faire ça, parce que justement ça me change un peu de la musique. C'est vrai que surtout quand je passe, en tournée j'en écoute quand même de temps en temps, mais par exemple quand je suis plutôt en phase de travail au studio, j'essaie de, quand j'ai écouté de la musique de 8h du mat, ou enfin 8h par jour plutôt je vais dire, j'ai pas spécialement envie de réécouter et continuer de la musique. Puis voilà, d'entendre les gens qui parlent, ça me berce toujours un peu. Donc la radio, des podcasts, j'aime bien entendre les gens parler. Ouais.
Et des podcasts, t'as des thèmes particuliers que tu aimes bien ou...
Non, je regarde ce que je trouve et j'en écoute plein différents, que ce soit sur la musique, sur la science, sur l'information, sur des histoires, un peu tout.
Ouais, donc t'as pas un thème...
Non, pas encore, c'est encore trop récent, ça fait encore que 2-3 ans que ça existe. Pour l'instant, je découvre encore plein de choses que j'aime bien.
Ouais, donc c'est de l'exploration plutôt aléatoire.
Ouais, exactement.
Donc ce qui est sympa par rapport au travail où c'est très cadré.
Voilà.
Et on va terminer sur ton actu. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ton nouvel album en préparation et de Sofa? Ce que tu l'as annoncé sur Instagram, je crois. C'était un nouveau duo avec Benjamin Faugloire qui est pianiste.
Ouais. Alors ça, c'est un projet auquel je tiens beaucoup, parce que c'est une autre facette de ce que j'écoute comme musique, c'est-à-dire le jazz. Donc là, j'ai travaillé avec un ami d'enfance qui est pianiste de jazz, et on a fait alors je sais pas trop comment on peut appeler ça, en fait c'est un morceau qui dure 18 minutes. On a dû le diviser en 3 pour des raisons de Spotify, d'éditorial, enfin tu peux appeler ça comme tu veux, mais bon voilà. Mais c'est quand même un seul morceau de très long.
Oui, c'est comme un film en 3 épisodes.
Ouais,
quoi.
Voilà, c'est ça. Là, on a un clip qui va sortir de ça, qu'on a reçu hier, qui est génial, qui va sortir la semaine prochaine ou dans courant juin. Et voilà, et après, donc ça, c'est ce que je me permets de faire entre des différents albums. Là, je prépare mon troisième album, et je peux pas trop en parler non plus, parce que c'est en préparation, je suis en train de composer, donc...
Oui, t'es encore en composition,
ouais, voilà,
ok, c'était pour savoir à peu près où t'en étais.
Ouais, j'en suis là.
Donc on dira pas beaucoup plus, et le clip, c'est les mêmes réalisateurs
c'est
que d'habitude.
C'est les Cowboys qui ont sorti ça, ouais.
Voilà, donc on les retrouve encore, donc ça doit être un peu le même univers, peut-être.
Ouais, c'est ça, là, un univers qui l'aurait propre.
Bah, ça me fait passer à ma question suivante, c'est magnifique. Parce que la question bonus track, c'était sur ton univers visuel, parce que je sais que tu as beaucoup composé pour des pubs et que tu as ce côté très visuel dans ton travail, que tu as travaillé beaucoup avec eux et que vous avez créé une identité pour French 79 qui est très reconnaissable. Donc, alors déjà, savoir si c'est un arc-en-ciel ou pas. Pour moi, c'est des fractales de lumière, c'est pas forcément un arc-en-ciel ou de son. Qu'est-ce que c'est que cet arc-en-ciel en soi qui est partout? Et aussi dans tes clips donc, qu'ils ont réalisés, il y a une touche assez rétro, 80s, 90s, plein d'éléments un peu vintage, mélangés avec une esthétique qui est un peu proche de celle de Drive, d'ailleurs, dont t'avais fait un remix il n'y a pas longtemps. Moi, c'est un peu cette esthétique assez, justement, old school, mais avec un côté un peu drôle et second degré. Donc, est-ce que tu peux nous expliquer un peu comment s'est créée cette identité visuelle?
Bah, écoute, le côté années 80, 90, ça, c'est un peu moi qui en ai parlé aux Cowboys, parce que c'est aussi mon adolescence, et c'est l'adolescence, j'ai l'impression que c'est là qu'on se forge vraiment une identité, pas que musicale, hein, aussi, je sais pas, ses copains, sa culture, sa manière de parler, sa manière de vouloir vivre plus tard et tout. Donc ça, c'était une période qui était importante pour moi. Donc ça, c'est plutôt moi qui en ai parlé, parce que j'ai toujours eu, pas de la nostalgie, mais en tout cas des bons souvenirs de cette période-là. Et après, le côté... Alors le logo, je sais pas vraiment si c'est un arc-en-ciel, les couleurs peuvent changer et tout. C'est vrai que ça s'apparente à ça, à tout ce que tu veux, tout ce que tu peux t'imaginer, la diffraction de la lumière, toutes ces choses-là. Mais il faut juste savoir que celui qui m'a fait ça, c'est Philippe des Cowboys. Il est fan des compagnies aériennes allemandes des années 75 ou 76.
D'accord.
Voilà. Donc c'est vraiment un truc plutôt de niche qui vient de là, tu vois, un peu le côté aviation, tout ça. Et quand il m'a parlé de ça, je lui ai dit, bah vas-y direct, parce que ça me plaît aussi, le côté aviation, le voyage, toutes ces choses-là, ça m'évoque ça. Et voilà, c'est un espèce de mélange de plein de trucs qu'on s'est dit, donc on en avait parlé, voilà, ça a donné ce logo.
Ok, donc pas de rapport avec les couleurs du son, par exemple, que certains...
Non. Bon,
ok. Donc c'est vraiment plus l'aviation, c'est
ouais,
intéressant.
Ouais.
Je savais aussi que t'aimais bien Kraftwerk,
ouais,
pardon, j'arrive jamais à prononcer leur nom.
Ouais, c'est dur.
Et il y a un peu, c'est un peu le même univers, un peu rétro de ces années-là.
C'est un peu ça, ouais. Il y a, je trouve que le graphisme de ces années-là était quand même minimal et simple, et en même temps impactant, joli, classe.
Et en termes de films et d'esthétique, moi j'ai vu qu'il y avait des clips qui étaient assez influencés par des films. Donc est-ce qu'il y en a, enfin il y en a certains qui t'ont marqué par exemple ou qui pensent
systématiquement. Il y en a beaucoup qui m'ont marqué évidemment comme tout le monde, mais c'est ça revient encore à ces années-là, je pense. C'était, enfin en tout cas de ce que j'ai sorti pour le moment, c'était un peu axé sur ce genre d'imagerie visuelle de la fin des années 80, 90. Parce que voilà, ça rejoint aussi cette adolescence là que j'ai vue où tu regardes les films 10 fois de suite, tu t'imprègnes de ce truc-là et voilà. Et moi, il y a eu des films Blade Runner, tout ça, ça m'a marqué. Donc ça rejoint ce côté. Là, ouais.
Ça marche. Et donc, justement, tu as quand même sous-entendu que ton prochain album ne serait pas forcément sur cette esthétique-là. Ok. Ah, mais je dis rien. C'était
c'est
gentil.
Bien,
on a eu l'info. C'est top. Et donc, Simon, est-ce qu'on va bientôt, après cette grande tournée, notamment aux États-Unis, te réentendre en France, ou est-ce que tu es parti pour courir le monde encore un petit moment?
Eh bien, les deux, non. Je parcours encore un peu le monde, mais je reviens aussi en France. Hein. Donc là, je joue à Paris, à Marseille, à... Tu les connais mieux que moi, je crois, j'ai l'impression, les dates.
Oui, alors il y a plusieurs festivals. Il y a notamment Décibule en juillet, Milo et Cran Précellini au Caravana Festival le 16 juin aussi. Donc voilà. Tu vas beaucoup être avec nous, donc on est très contents de te revoir un peu en France.
Bah oui, quand même.
Tu nous as préparé une playlist pour accompagner l'épisode. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? C'est tes inspirations, je crois, entre autres.
C'est mes inspirations et surtout aussi beaucoup de choses en dehors de French que j'ai produit, réalisé, avec qui j'ai travaillé. Donc il y a tout mon entourage musical. Donc c'est une petite playlist qui permet d'aller un peu plus en profondeur si on aime bien ma musique.
Et ton univers aussi. Donc
voilà.
On retrouve un peu toutes les bandes de potes avec qui t'as travaillé, que ce soit Nasser, y a Kit Francescoli, il y a Sarah Rebecca, il y a le fameux projet sur Lou Reed,
ouais,
qui était assez intéressant. Est-ce que tu peux m'en dire deux mots aussi?
C'est un projet qui était tiré d'un festival de littérature où on devait faire un concert d'une heure, et puis vu qu'on avait tous ces morceaux-là qui étaient prêts, on a décidé de sortir ça pendant le Covid, en fait, puisque c'était un moment où c'était l'occasion de sortir des choses qu'on n'avait pas spécialement prévu de sortir. Voilà, on en a profité pour le sortir.
Oui, c'est un peu une histoire musicale pour moi.
Ouais, c'est un peu ça, c'est une histoire imaginaire. On a eu accès à des textes de Lou Reed qui n'étaient pas encore sortis, ce genre de choses-là, grâce à ce festival de littérature, et on en a fait un album.
Génial. Bah, écoutez aussi si vous connaissez le travail de Simon ailleurs. C'est assez intéressant et différent de ce qu'il fait d'habitude. Donc, on va te remercier d'avoir participé au 6e épisode de Track Record, te souhaiter un super live ce soir et un très bon prochain album aussi.
Eh bah, merci beaucoup.
Merci à toi. On dit parfois que l'électro est froide, sans âme, car composée avec des machines. J'espère que ce podcast vous a prouvé le contraire, car il me semble qu'il faut encore plus d'humanité pour produire une musique de ce type, qui puisse rassembler autant de gens dans une communion et un engouement qu'on voit rarement ailleurs aujourd'hui. Si vous voulez soutenir Track Record, n'hésitez pas à partager ce podcast et à nous laisser vos commentaires sur votre plateforme d'écoute préférée. Merci à toutes et à tous pour votre écoute, et à très vite pour un nouveau Track Record.